Chapitre 9. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Vers 2 heures, ce même jour, la petite, comme disait Mariscal, s'habillait. Un vieux domestique du nom de Valentin, qui composait maintenant tout le personnel de la maison, lui avait servi à manger dans sa chambre et l'avait prévenu que Bréjac désirait lui parler. Elle relevait à peine de maladie. Pâle, très faible, elle se contraignait à demeurer droite et la tête haute pour paraître devant l'homme qu'elle détestait. Elle mit du rouge à ses lèvres, du rouge à ses joues, et descendit. Bréjac l'attendait au premier étage, dans son cabinet de travail, une grande pièce au volet clos et qu'une ampoule éclairait.
« Assieds-toi !»«
Non !»«
Assieds-toi ! Tu es fatigué !»«
Dites-moi tout de suite ce que vous avez à me dire, afin que je remonte chez moi. »
Bréjac marcha quelques instants dans la pièce. Il montrait un visage agité et soucieux. Furtivement, il observait Aurélie, avec autant d'hostilité que de passion, comme un homme qui se heurte à une volonté indomptable. Il avait pitié d'elle aussi. Il s'approcha et, lui mettant la main sur l'épaule, la fit asseoir de force.
« Tu as raison, ce ne sera pas long. Ce que j'ai à te communiquer peut être dit en quelques mots. Tu décideras ensuite. »
Ils étaient l'un près de l'autre, et plus éloignés cependant l'un de l'autre, que deux adversaires. Bréjac le sentit. Toutes les paroles qu'il prononcerait ne feraient qu'élargir l'abîme entre eux. Il crispa les poings.
« Alors tu ne comprends pas encore que nous sommes entourés d'ennemis et que ta situation ne peut pas durer ?»«
Quels ennemis ?»«
Et tu ne l'ignores pas, Mariscal. Mariscal qui te déteste et qui veut se venger. » « Écoute, Aurélie, on nous surveille depuis quelque temps. Au ministère, on fouille mes tiroirs. Supérieur et inférieur, tout le monde est ligué contre moi. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont tous plus ou moins à la solde de Mariscal, et parce que tous, ils le savent, puissants près du ministre. Or, toi et moi, nous sommes liés l'un à l'autre, ne fût-ce que par sa haine. » Et nous sommes liés par notre passé, qui est le même, que tu le veuilles ou non. Je t'ai élevé, je suis ton tuteur. Ma ruine, c'est la tienne. Et je me demande même si ce n'est pas toi que l'on veut atteindre, pour des motifs que j'ignore. Oui, j'ai l'impression, à certains symptômes, qu'on me laisserait tranquille, à la rigueur, mais que tu es menacé directement.
Elle parut défaillir.
Quels symptômes ?
C'est pis que cela. J'ai reçu une lettre anonyme sur papier du ministère. Une lettre absurde, incohérente, où je suis averti que des poursuites vont commencer contre toi.
Des poursuites ? Vous êtes fou. Et c'est parce qu'une lettre anonyme...
Oui, je sais. Quelque subalterne qui aura recueilli un de ces bruits stupides. Mais tout de même, Mariscal est capable de toutes les machinations.
Si vous avez peur, allez-vous-en.
C'est pour toi que j'ai peur, Aurélie.
Je n'ai rien à craindre.
Si, cet homme a juré de te perdre.
Alors, laissez-moi partir.
Tu en aurais donc la force ?
J'aurai toute la force qu'il faudrait pour quitter cette prison où vous me tenez et pour ne plus vous voir. »
Il eut un geste découragé.
« Tais-toi ! Je ne pourrai pas vivre. J'ai trop souffert pendant ton absence. Oh, j'aime mieux tout plutôt que d'être séparé de toi. Ma vie entière dépend de ton regard, de ta vie. »
Elle se dressa avec indignation, toute frémissante.
Je vous défends de me parler ainsi. Vous m'avez juré que je n'entendrai plus jamais un mot de cette sorte, un de ces mots abominables. »
Tandis qu'elle retombait assise, aussitôt épuisée, il s'éloignait d'elle et se jetait dans un fauteuil, la tête entre ses mains, les épaules secouées de sanglots. Comme un homme vaincu pour qui l'existence est un fardeau intolérable. Après un long silence, il reprit, l'intonation sourde.
« Nous sommes plus ennemis encore qu'avant ton voyage. Tu es revenue toute différente. Qu'as-tu donc fait, Aurélie? Non pas à Sainte-Marie, mais durant les trois premières semaines où je te cherchais comme un fou, sans penser au couvent. Ce misérable Guillaume, tu ne l'aimais pas, cela je le sais. Cependant, tu l'as suivi. Pourquoi? Qu'est-il advenu de vous deux? Qu'est-il advenu de lui? Oh, j'ai l'intuition d'événements très graves qui se sont produits. On te sent inquiète. Dans ton délire, tu parlais comme quelqu'un qui fuit sans cesse. Et tu voyais du sang, des cadavres. »
Elle frissonna.
« Non, non, ce n'est pas vrai. Vous avez mal entendu. »
Il hocha la tête.
« Je n'ai pas mal entendu. Tiens, en ce moment même, tes yeux sont effarés. On croirait que ton cauchemar continue. Tu as besoin d'un grand repos, ma pauvre petite. Et c'est cela que je viens te proposer. Ce matin, j'ai demandé un congé, et nous nous en irons. Je te fais le serment que je ne dirai pas un seul mot qui puisse t'offenser. Bien plus, je ne te parlerai pas de ce secret que tu aurais dû me confier, puisqu'il m'appartient comme à toi. Je n'essaierai pas de lire au fond de tes yeux où ils se cachent, et où j'ai tenté si souvent, par la force, je m'en accuse, de déchiffrer l'énigme impénétrable. Je te laisserai tes yeux tranquilles, Aurélie. Je ne te regarderai plus. Ma promesse est formelle. Mais viens, ma pauvre petite. Oh, tu me fais pitié. Tu souffres. Tu attends je ne sais pas quoi, et ce n'est que le malheur qui peut répondre à ton appel. Viens.
Elle gardait le silence avec une obstination farouche. Entre eux, c'était le désaccord irrémédiable. L'impossibilité de prononcer une parole qui ne fût une blessure ou un outrage. L'odieuse passion de Bréjac les séparait plus que tant de choses passées et tant de raisons profondes qui les avaient toujours heurtés l'un à l'autre.
« Réponds !»«
Je ne veux pas. » Je ne veux plus supporter votre présence. Je ne peux plus vivre dans la même maison que vous. À la première occasion, je partirai.
Et sans doute pas seul. Pas plus seul que la première fois. Guillaume, n'est-ce pas?
J'ai chassé Guillaume.
Un autre alors? Un autre que tu attends, j'en ai la conviction. Tes yeux ne cessent de chercher. Tes oreilles d'écouter. Ainsi, en ce moment. »
La porte du vestibule s'était ouverte et refermée.
Mais qu'est-ce que je disais? On croirait vraiment que tu espères et que quelqu'un va venir. Non, Aurélie, nul ne viendra, ni Guillaume, ni un autre. C'est Valentin que je t'avais envoyé au ministère pour prendre mon courrier, car je n'irai pas tantôt.
Les pas du domestique montèrent les marches du premier étage et traversèrent l'antichambre. Il entra.
« Tu as fait la commission, Valentin ?»«
Oui, monsieur. »«
Il y avait des lettres, des signatures à donner ?»«
Non, monsieur. »«
Tiens, c'est drôle. Mais le courrier ?»«
Le courrier venait d'être remis à monsieur Mariscal. »«
Mais de quel droit Mariscal a-t-il osé ?» « Il était là, Mariscal ?»«
Non, monsieur. Il était venu et reparti aussitôt. »«
Reparti? À 2h30 ? Affaire de service, alors.
Oui, monsieur.
Tu as essayé de savoir ?
Oui, mais on ne savait rien dans les bureaux.
Il était seul ?
Non, avec Labonce, Tony et Sauvinou.
Avec Labonce et Tony ? Mais en ce cas, il s'agit d'une arrestation. Comment n'ai-je pas été prévenu ? Que se passe-t-il donc ?
Valentin se retira. Bréjac s'était remise à marcher et répétait pensivement
« Tony, l'âme damnée de Mariscal, Labonce, un de ses favoris, et tout cela en dehors de moi !»
5 minutes s'écoulèrent. Aurélie le regardait anxieusement. Tout à coup, il marcha vers l'une des fenêtres, dont il entr'ouvrit un des volets. Un cri lui échappa.
« Ah ! Ils sont là, au bout de la rue. Ils guettent.
Qui ?
Tous les deux, les acolytes de Mariscal, Tony et Labonce.
Eh bien ?
Eh bien, ce sont ces deux-là qu'il emploie toujours dans les cas graves. Ce matin encore, c'est avec eux qu'il a opéré dans le quartier.
Ils sont là ?
Ils sont là, je les ai vus.
Et Mariscal va venir ?
Sans aucun doute. Tu as entendu ce que disait Valentin.
Il va venir. Il va venir.
Bréjac s'étonna de son émoi.
Et qu'est-ce que tu as ?
Rien. Malgré soi, on s'effraie. Mais il n'y a aucune raison.
Bréjac réfléchit. Lui aussi, il cherchait à dominer ses nerfs.
Aucune raison, en effet. On s'emballe le plus souvent pour des motifs puérils. Je vais aller les interroger, et je suis sûr que tout s'expliquera. Mais oui, absolument sûr. Car enfin, les événements permettent plutôt de croire que ce n'est pas nous, mais la maison d'en face qui est en surveillance.
Aurélie releva la tête.
Quelle maison ?
L'affaire dont je te parlais, un individu qu'ils ont arrêté ce matin à midi. Si tu avais vu Mariscal quand il a quitté son bureau à 11h, je l'ai rencontré. Il avait une expression de contentement et de haine féroce. C'est cela qui m'a troublé. On ne peut avoir une telle haine dans sa vie que contre une personne. Et c'est moi qu'il est ainsi, ou plutôt, nous deux. Alors, j'ai pensé que la menace nous concernait.
Aurélie s'était dressée, plus pâle encore.
« Que dites-vous ? Une arrestation en face ?»«
Oui, un certain Limési, qui se donne comme explorateur, un baron de Limési. À 1h, j'ai eu des nouvelles au ministère. » On venait de l'écrouer au dépôt.
Elle ignorait le nom de Raoul, mais elle ne doutait pas qu'il ne s'agît de lui.
Qu'a-t-il fait ? Qui est-ce, ce Limési ?
D'après Mariscal, ce serait l'assassin du rapide, le troisième complice que l'on recherche.
Aurélie fut près de tomber. Elle avait un air de démence et de vertige et tâtonnait dans le vide pour trouver un point d'appui.
Que se passe-t-il, Aurélie ? Quel rapport, cette affaire ?
Nous sommes perdus.
Que veux-tu dire ?
Vous ne pouvez pas comprendre.
Explique-toi. Tu connais cet homme ?
Oui, oui. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé de Mariscal et de Guillaume également. Et de ce Jodot que vous recevez ici. Il nous aurait sauvés encore aujourd'hui.
Il l'observait avec stupeur.
« C'est lui que tu attendais ?»«
Oui. Il m'avait promis d'être là. J'étais tranquille. Oh, je lui ai vu accomplir de telles choses, se moquer de Mariscal. »«
Alors ?»«
Alors, il vaudrait peut-être mieux nous mettre à l'abri, vous comme moi. Il y a des histoires que l'on pourrait interpréter contre vous. » des histoires d'autrefois.
Tu es folle. Il n'y a rien eu. Pour ma part, je ne crains rien. »
Malgré ses dénégations, il sortait de la pièce et entraînait la jeune fille sur le palier. Ce fut elle, au dernier moment, qui résista.
« Et puis, non, à quoi bon? Nous serons sauvés. Il viendra, il s'évadera. Pourquoi ne pas l'attendre ?»«
On ne s'évade pas du dépôt. »«
Vous croyez? Oh mon Dieu, quelle horreur que tout cela !»
Elle ne savait à quoi se résoudre. Des idées affreuses tourbillonnaient dans son cerveau de convalescente. La peur de Mariscal, et puis l'arrestation imminente, la police qui allait se précipiter et lui tordre les poignets. L'épouvante de son beau-père la décida. Emportée dans un souffle de tempête, elle courut jusqu'à sa chambre et réapparut aussitôt avec un sac de voyage à la main. Bréjac s'était aussi préparé. Ils avaient l'air de deux criminels qui ne peuvent plus rien attendre que d'une fuite éperdue. Ils descendirent l'escalier, traversèrent le vestibule. À cet instant même, on sonna.
Oh, « trop tard !»« Mais non, c'est peut-être lui qui arrive et qui va... »
Elle pensait à son ami de la terrasse, au couvent. Il avait juré de ne jamais l'abandonner, et qu'à la dernière minute même, il saurait la sauver. Des obstacles. Est-ce qu'il y en avait pour lui? N'était-il pas le maître des événements et des personnes? On sonna de nouveau. Le vieux domestique sortait de la salle à manger.
« Ouvre !»
On percevait des chuchotements et des bruits de bottes de l'autre côté. Quelqu'un frappa.
« Ouvre donc !»
Le domestique obéit. Dehors, Mariscal se présentait, accompagné de trois hommes, de ces hommes à tournure spéciale que la jeune fille connaissait bien. Elle s'adossa à la rampe de l'escalier, en gémissant, si bas que Bréjac seul l'entendit.
« Ah, mon Dieu, ce n'est pas lui !»
En face de son subalterne, Bréjac se redressa.
« Que voulez-vous, monsieur? Je vous avais défendu de revenir ici. »«
Affaire de service, monsieur le directeur. Ordre du ministre. »«
Ordre qui me concerne ?»«
Qui vous concerne, ainsi que mademoiselle. »«
Et qui vous oblige à demander l'assistance de trois de ces hommes ?»«
Ma foi, non. Le hasard. » Il se promenait par là, et nous causions. Mais pour peu que cela vous contrarie...
Il entra et vit les deux valises.
Mais un petit voyage. Une minute de plus, et ma mission échouée.
Monsieur Mariscal, si vous avez une mission à remplir, une communication à me faire, finissons-en, et tout de suite. « Ici même !»
Le commissaire se pencha.
« Pas de scandale, Bréjac. Pas de bêtises. Personne ne sait encore rien, pas même mes hommes. Expliquons-nous dans votre cabinet. »«
Personne ne sait rien? De quoi, monsieur ?»«
De ce qui se passe et qui a quelque gravité. Si votre belle-fille ne vous en a pas parlé... Peut-être avouera-t-elle qu'une explication, sans témoin, est préférable. C'est votre avis, mademoiselle ?
Blanche comme une morte, sans quitter la rampe, Aurélie semblait prête à défaillir. Bréjac la soutint.
Montons !
Elle se laissa conduire. Mariscal prit le temps de faire entrer ses hommes.
Ne bougez pas du vestibule, tous les trois. Et que personne n'entre ni ne sorte, hein? Vous, le domestique, enfermez-vous dans votre cuisine. S'il y avait du grabuge là-haut, je donne un coup de sifflet, et Sauvinou arrive à la rescousse. Convenu?
Convenu!
Répondit la bonce.
Pas d'erreur possible.
Mais non, patron, vous savez bien qu'on n'est pas des collégiens et qu'on vous suivra comme un seul homme.
Même contre Bréjac?
Et parbleu!
Ah, la bouteille. Donne-la-moi, Tony.
Il saisit la bouteille, ou plutôt le carton qui la contenait, et vivement, ses dispositions bien arrêtées, il escalada les marches et franchit en maître le cabinet de travail d'où on l'avait chassé ignominieusement il n'y avait pas 6 mois. Quelle victoire pour lui! Et avec quelle insolence il la fit sentir, se promenant d'un pas massif et le talon sonore, et contemplant tour à tour des portraits accrochés au mur et qui représentaient Aurélie, Aurélie enfant, petite fille, jeune fille. Bréjac essaya bien de protester. Tout de suite, Marescal le remit en place.
« Inutile, Bréjac. Votre faiblesse, voyez-vous, c'est que vous ne connaissez pas les armes que j'ai contre mademoiselle, et par conséquent, contre vous. Quand vous les connaîtrez, peut-être penserez-vous que votre devoir est de vous incliner. »
L'un en face de l'autre, les deux ennemis, debout, se menaçaient du regard. Leur haine était égale, faite d'ambitions opposées, d'instincts contraires, et surtout d'une rivalité de passion que les événements exaspéraient. Près d'eux, Aurélie attendait, assise toute droite sur une chaise. Chose curieuse, et qui frappa Marescal, elle semblait s'être reprise. Toujours lasse, la physionomie contractée, elle n'avait plus cependant, comme au début de l'attaque, son air de proie impuissante et traquée. Elle gardait cette attitude rigide qu'il lui avait vue sur le banc de Sainte-Marie. Ses yeux, grands ouverts, mouillés de larmes qui coulaient le long de ses joues pâles, étaient fixes. À quoi pensait-elle? Au fond de l'abîme, parfois, on se redresse. Croyait-elle que lui, Marescal, serait accessible à la pitié? Avait-elle un plan de défense qui lui permettrait d'échapper à la justice et au châtiment? Il heurta la table d'un coup de poing.
« Nous allons bien voir !»
Et laissant de côté la jeune fille, il avança sur Bréjac, si près que l'autre dut reculer d'un pas.
« Ce sera bref. Des faits seulement, dont quelques-uns vous sont connus, Bréjac, comme ils le sont de tous, mais dont la plupart n'ont eu d'autres témoins que moi, ou bien n'ont été constatés que par moi. N'essayez pas de les nier. Je vous l'ai dit, tels qu'ils furent, dans leur simplicité. Les voici en procès-verbal. Donc, le 26 avril dernier... »
Bréjac tressaillit.
« Le 26 avril, c'est le jour de notre rencontre, et boulevard Haussmann. »
« Oui, le jour où votre belle-fille est partie de chez vous. Et c'est aussi le jour où 3 personnes ont été tuées dans le rapide de Marseille.
« Quoi? Quel rapport y a-t-il ? »
Le commissaire lui fit signe de patienter. Toutes choses seraient énoncées à leur place, dans leur ordre chronologique.
« Donc, le 26 avril, la voiture numéro 5 de ce rapide n'était occupée que par 4 personnes. » Dans le premier compartiment, une Anglaise, Miss Beckerfield, voleuse, et le baron de Limézy, soi-disant explorateur. Dans le compartiment de tête, 2 hommes, les frères Loubeau, résidant à Neuilly-sur-Seine. La voiture suivante, la 4e, outre plusieurs personnes qui n'ont joué aucun rôle et qui ne se rendirent compte de rien, emportait d'abord un commissaire aux recherches internationales, et un jeune homme et une jeune fille, seuls dans un compartiment dont ils avaient éteint la lumière et baissé les stores, comme des voyageurs endormis, et que nul ne put ainsi remarquer, pas même le commissaire. Ce commissaire, c'était moi,
qui filait Miss Bakerfield. Le jeune homme, c'était Guillaume Ancivel, coulissier et cambrioleur, assidu de cette maison, et qui partait furtivement avec sa compagne. Et vous mentez ? Vous mentez ? Aurélie est au-dessus de tout soupçon. Je ne vous ai pas dit que cette compagne fût mademoiselle. Jusqu'à La Roche, rien. Une demi-heure encore, toujours rien. Puis le drame violent, brusque. Le jeune homme et la jeune fille sortent de l'ombre et passent de la voiture 4 à la voiture 5. Ils sont camouflés. Longue blouse grise, casquette et cagoule. Tout de suite, à l'arrière de la voiture 5, le baron de Limésy les attend. À eux trois, ils assassinent et dévalisent Miss Bakerfield. Puis le baron se fait attacher par ses complices, lesquels courent à l'avant, tuent et dévalisent les deux frères. Au retour, rencontre du contrôleur, bataille. Il s'enfuit, tandis que le contrôleur trouve le baron de Limésy attaché comme une victime, et, soi-disant, dévalisé aussi. Voilà le premier acte. Le second, c'est la fuite par les remblais et les bois. Mais l'éveil est donné. Je m'informe. Je prends vivement les dispositions nécessaires. Résultat, les deux fuyards sont cernés. L'un d'eux s'échappe. L'autre est arrêté et enfermé. On m'avertit. Je vais vers lui dans l'ombre où il se dissimulait. C'est une femme.
Bréjac avait reculé de plus en plus et vacillé comme un homme ivre, acculé au dossier d'un fauteuil.
« Vous êtes fou ! Vous dites des choses incohérentes ! Vous êtes fou !»
Mariscal continua, inflexible.
« J'achève. Grâce au pseudo-baron, dont j'ai tort de ne pas me méfier, la prisonnière se sauve et rejoint Guillaume Ancivel. » Je retrouve leurs traces à Monte-Carlo. Puis je perds du temps, je cherche en vain, jusqu'au jour où j'ai l'idée de revenir à Paris et de voir si vos investigations, à vous, Bréjac, n'étaient pas plus heureuses et si vous aviez découvert la retraite de votre belle-fille. C'est ainsi que j'ai pu vous précéder de quelques heures au couvent de Sainte-Marie et parvenir à une certaine terrasse où mademoiselle se laissait compter fleurette. Seulement, l'amoureux a changé. Au lieu de Guillaume Ancivel, c'est le baron de Limésy, c'est-à-dire le troisième complice.
Bréjac écoutait avec épouvante ces monstrueuses accusations. Tout cela devait lui sembler si implacablement vrai. Cela expliquait si logiquement ses propres intuitions et correspondait si rigoureusement aux demi-confidences qu'Aurélie venait de lui faire à propos de son sauveur inconnu qu'il n'essayait plus de protester. De temps à autre, il observait la jeune fille qui demeurait immobile et muette dans sa posture rigide. Les mots ne paraissaient pas l'atteindre. Plutôt que ces mots, on eût dit qu'elle écoutait les bruits du dehors. Est-ce qu'elle espérait encore une impossible intervention ?
Et alors ?
Alors, grâce à lui, elle réussit une fois de plus à s'échapper. Et je vous avoue que j'en ris aujourd'hui, puisque j'ai ma revanche. Et quelle revanche, Bréjac ? Hein ? Vous rappelez-vous, il y a 6 mois... On m'a chassé comme un valet, avec un coup de pied, pourrait-on dire. Et puis, je la tiens, la petite. Et c'est fini.
Il tourna le poing comme pour fermer à clé une serrure. Et le geste était si précis, indiquait si nettement son effroyable volonté à l'égard d'Aurélie, que Bréjac s'écria
« Ah non, non !» « Ce n'est pas vrai, Mariscal, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas livrer cet enfant. »«
Là-bas, à Sainte-Marie,
je lui ai offert la paix. Elle m'a repoussé. Tant pis pour elle. Aujourd'hui, c'est trop tard. » Et comme Bréjac s'approchait et lui tendait les mains d'un air de supplication, il coupa court aux prières.
« Inutile. Tant pis pour elle, tant pis pour vous. Elle n'a pas voulu de moi. Elle n'aura personne. Et c'est justice. Payer sa dette pour les crimes commis, c'est me la payer à moi, pour le mal qu'elle m'a fait. Il faut qu'elle soit châtiée, et je me venge en la châtiant. Tant pis pour elle !»
Il frappait du pied ou scandait ses imprécations à coups de poing sur la table. Obéissant à sa nature grossière, il mâchonnait des injures à l'adresse d'Aurélie.
« Me regardez-la donc, Bréjac! Est-ce qu'elle y pense seulement à me demander pardon, elle? Si vous courbez le front, est-ce qu'elle s'humilie? Et savez-vous pourquoi ce mutisme, cette énergie contenue et intraitable? Parce qu'elle espère encore, Bréjac! Oui, elle espère, j'en ai la conviction! Celui qui l'a sauvée 3 fois de mes griffes la sauvera 4e fois !»
Aurélie ne bougeait pas. Il saisit brusquement le cornet d'un appareil téléphonique et demanda à la préfecture de police.
« Allô, la préfecture? Mettez-moi en communication avec M. Philippe, de la part de M. Marescal. »
Se tournant alors vers la jeune fille, il lui appliqua contre l'oreille le récepteur libre. Aurélie ne bougea pas. À l'extrémité de la ligne, une voix répliqua. Le dialogue fut bref.
« C'est toi, Philippe ?»«
Marescal ?»«
Oui, écoute, il y a près de moi une personne à qui je voudrais donner une certitude. Réponds carrément à ma question. »«
Parle. »«
Où étais-tu ce matin à midi ?»«
Au dépôt, comme tu m'en avais prié. J'ai reçu l'individu que la bonne Sétonie a amené de ta part. »
Où l'avons-nous cueilli ?
Dans l'appartement qu'il habite rue de Courcelles, en face même de Bréjac.
On l'a écroué ?
Devant moi.
Sous quel nom ?
Baron de Limésy.
Inculpé de quoi ?
D'être le chef des bandits dans l'affaire du rapide.
Tu l'as revu depuis ce matin ?
Oui, tout à l'heure, au service anthropométrique. Il y est encore.
« Merci, Philippe. C'est ce que je voulais savoir. Adieu. »
Il raccrocha le récepteur.
« Hein ? Ma belle Aurélie, voilà où il en est, le sauveur. Coffret, bouclé. »
« Je le savais.
» Elle le savait. Et elle attend quand même. Oh, que c'est drôle! Il a toute la police et toute la justice sur le dos. C'est une loque, un chiffon, un fétu de paille, une bulle de savon. Et elle l'attend. Les murs de la prison vont s'abattre. Les gardiens vont lui avancer une auto. Le voilà! Il va entrer par la cheminée, par le plafond.
Il était hors de lui et secouait brutalement par l'épaule la jeune fille, impassible et distraite.
Rien à faire, Aurélie. Plus d'espoir. Le sauveur est fichu. Claquemuré, le baron. Et dans 1 heure, ce sera ton tour, ma jolie. Les cheveux coupés, Saint-Lazare, la cour d'assises. Ah, coquine, j'ai assez pleuré pour tes beaux yeux verts. Et c'est à eux.
Il n'acheva pas. Derrière lui, Bréjac s'était dressé et l'avait agrippé au cou de ses 2 mains fébriles. L'acte avait été spontané. Dès la première seconde où Marescal avait touché l'épaule de la jeune fille, il s'était glissé vers lui, comme révolté par un tel outrage. Marescal fléchit sous l'élan et les 2 hommes roulèrent sur le parquet. Le combat fut acharné. L'un et l'autre y mettaient une rage que leur rivalité haineuse exacerbait. Marescal, plus vigoureux et plus puissant, mais Bréjac soulevé d'une telle fureur que le dénouement demeura longtemps incertain. Aurélie les regardait avec horreur, mais ne bougeait pas. Tous deux étaient ses ennemis, pareillement exécrables. À la fin, Marescal, qui avait secoué l'étreinte et dénoué les mains meurtrières, cherchait visiblement à atteindre sa poche et à attirer son Browning. Mais l'autre lui tordait le bras, et tout au plus réussit-il à saisir son sifflet qui pendait à sa chaîne de montre. Un coup strident retentit. Bréjac redoubla d'efforts pour prendre de nouveau son adversaire à la gorge. La porte fut ouverte. Une silhouette bondit dans la pièce et se précipita sur les adversaires. Presque aussitôt, Marescal se trouvait libre et Bréjac apercevait à 10 centimètres de ses yeux le canon d'un revolver.
Ah, bravo, Sauvinou. L'incident vous sera compté pour de bon, mon ami.
Sa colère était si forte qu'il eut la lâcheté de cracher à la figure de Bréjac.
Misérable, bandit, et tu t'imagines que tu en seras quitte à si bon marché? Ta démission d'abord, et tout de suite. Le ministre l'exige. Je l'ai dans ma poche. Tu n'as qu'à signer.
Il exhiba un papier.
Ta démission et les aveux d'Aurélie, je les ai rédigés d'avance. Ta signature, Aurélie. Tiens, lis. J'avoue que j'ai participé au crime du Rapide le 26 avril dernier, que j'ai tiré sur les frères Loubeau. J'avoue que... Enfin, toute ton histoire résumée, pas la peine de lire. Signe, ne perdons pas de temps.
Il avait trempé son porte-plume dans l'encre et s'obstinait à le lui mettre de force entre les doigts. Lentement, elle écarta la main du commissaire, prit le porte-plume et signa, selon la volonté de Marescal, sans prendre la peine de lire. L'écriture fut posée. La main ne tremblait pas.
Voilà qui est fait. Je ne croyais pas que cela irait si vite. Un bon point, Aurélie. Tu as compris la situation. Et toi, Bréjac?
Celui-ci hocha la tête. Il refusait.
Hein? Quoi? Monsieur refuse? Monsieur se figure qu'il va rester à son poste? De l'avancement, peut-être, hein? De l'avancement comme beau-père d'une criminelle. Elle est bonne, celle-là. Et tu continuerais à me donner des ordres, à moi, Marescal? Non, mais tu en as drôle, camarade. Crois-tu donc que le scandale ne suffira pas à te déboulonner? Et que demain, quand on lira dans les journaux l'arrestation de la petite, tu ne seras pas obligé.
Les doigts de Bréjac se refermèrent sur le porte-plume qu'on lui tendait. Il lut la lettre de démission, hésita.
Signé, monsieur.
Il signa. Marescal empocha les deux papiers.
Ah, ça y est! Les aveux et la démission. Mon supérieur abat, ce qui donne une place libre, et elle m'est promise. Et la petite en prison, ce qui me guérira peu à peu de l'amour qui me rongeait.
Il dit cela cyniquement, montrant le fond de son âme, et il ajouta avec un rire cruel.
Et ce n'est pas tout, Bréjac, car je ne lâche pas la partie. « Et j'irai jusqu'au bout !»
Bréjac sourit amèrement.
« Vous voulez aller plus loin encore ? Est-ce bien utile ?»«
Plus loin, Bréjac. Les crimes de la petite, c'est parfait. Mais doit-on s'en tenir là ?»
Il plongeait ses yeux dans les yeux de Bréjac.
« Que voulez-vous dire ?»«
Tu le sais ce que je veux dire. » Et si tu ne le savais pas, et si ce n'était pas vrai, tu n'aurais pas signé, et tu n'admettrais pas que je parle sur ce ton. Ta résignation, c'est un aveu. Et si je peux te tutoyer, Bréjac, c'est parce que tu as peur.
Je n'ai pas peur. Je supporterai le poids de ce café, cette malheureuse, dans un moment de folie.
et le poids de ce que tu as fait, Bréjac.
En dehors de cela, il n'y a rien.
En dehors de cela, il y a le passé. Le crime d'aujourd'hui, n'en causons plus. Mais celui d'autrefois, Bréjac.
Celui d'autrefois? Quel crime? Que signifie?
Mariscal frappa du poing, argument suprême chez lui, et qui soulignait toujours une explosion de colère.
Des explications? C'est moi qui en réclame, hein? Que signifient certaines expéditions au bord de la Seine récemment, un dimanche matin? Et ta faction devant la villa abandonnée? Et ta poursuite de l'homme à la poche? Hein? Dois-je te rafraîchir la mémoire et te rappeler que cette villa était celle des frères que ta belle-fille a supprimés, et que cet individu est un nommé Jodot, que je fais rechercher actuellement?
Jodot, l'associé des deux frères. Jodot, que j'ai rencontré jadis dans cette maison.
Hein? Comme tout cela s'enchaîne, et comme on entrevoit le rapport entre toutes ces machinations.
Bréjac haussa les épaules.
Absurdité! Hypothèse imbécile!
Hypothèse, oui. Impression auquel je ne m'arrêtais pas autrefois quand je venais ici, et lorsque je flairais, comme un bon chien de chasse, tout ce qu'il y avait d'embarras, de réticence, d'appréhension confuse dans tes actes et dans tes paroles. Mais hypothèses qui se sont confirmées peu à peu depuis quelque temps, et que nous allons changer en certitude, Bréjac. Oui, toi et moi, et sans qu'il te soit possible de l'esquiver. Une preuve irrécusable, un aveu, Bréjac, que tu vas faire à ton insu, là, tout de suite.
Il prit le carton qu'il avait apporté et déposé sur la cheminée, et le déficela. Il contenait un de ces étuis de paille qui servent à protéger les bouteilles. Il y en avait une que Mariscal tirait et qu'il planta devant Bréjac.
Voilà, camarade. Tu la reconnais, n'est-ce pas? C'est elle que tu as volée au sieur Jodot et que je t'ai reprise et qu'un autre m'a dérobée devant toi. Cet autre? Tout simplement le baron de Limézy, chez qui je l'ai trouvé tantôt. Hein? Comprends-tu ma joie? Un vrai trésor, cette bouteille. La voici, Bréjac, avec son étiquette et la formule d'une eau quelconque. L'eau de jouvence. La voici, Bréjac. Limézy l'a munie d'un bouchon et cachetée de cire rouge. Regarde bien. On voit un rouleau de papier à l'intérieur. C'est cela que tu voulais certainement reprendre à Jodot. Quelque aveu, sans doute. Une pièce compromettante de ton écriture. Mon pauvre Bréjac.
Il triomphait. Tout en faisant sauter la cire et en débouchant la bouteille, il lançait au hasard des mots et des interjections.
« Mariscal, célèbre dans le monde entier, arrestation des assassins du rapide, le passé de Bréjac, que de coups de théâtre dans l'enquête et aux assises. Sauvez-nous, tu as les menottes pour la petite. Appelle Labon Cétoni. » Ah, ah, la victoire complète!
Il renversa la bouteille. Le papier s'échappa. Il le déplia. Et emporté par ses discours fougueux, comme un coureur que son élan précipite au-delà du but, il lut, sans penser d'abord à la signification de ce qu'il disait.
« Mariscal est une gourde. »